À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour à tous. En forme après ce long week-end de repos pour certains. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 30 mai et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
Le gouvernement fédéral entend à nouveau modifier des dispositions autour d'une mesure fiscale. Il veut imposer aux locataires qui déduisent leur loyer en frais réels de remplir une annexe pour leur déclaration d'impôt. On vous explique pourquoi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu une troisième fois pour un mandat de 5 ans. Comment l'Europe doit-elle se positionner face à lui ? Nous en parlerons. Enfin, après la nomination d'un CEO en avril, un nouveau président chez Mitra, le spécialiste belge de la santé féminine, c'est un médecin de formation qui est là pour redresser la barre. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez Le Brief.
Le Brief, c'est info, dès 7h.
Une mesure fiscale est une nouvelle fois dans le viseur du gouvernement fédéral. Il veut contraindre les locataires qui déduisent tout ou partie de leur loyer en frais réels, c'est-à-dire à titre professionnel, à joindre une annexe à leur déclaration d'impôt. Ils y donneront toutes les informations sur leur bailleur. Pourquoi le gouvernement planche-t-il sur ce projet de loi ? Nous avons posé la question à l'avocat fiscaliste Mathieu Posseau.
En fait, le but de cette mesure, c'est pour l'administration fiscale de vérifier que le bailleur a bien repris le loyer ou la quote-part du loyer comme loyer professionnel, qui est taxé non pas sur la base du revenu cadastral indexé, mais sur base du loyer réel. Donc finalement, c'est une mesure par laquelle le locataire va devoir dénoncer son bailleur pour que l'administration fiscale puisse vérifier la situation fiscale de ce bailleur à l'impôt des personnes physiques. Avant, il pouvait toujours avoir un contrôle fiscal dans le chef du bailleur et l'administration pouvait faire un contrôle sur ses loyers, mais l'administration ne recevait pas proactivement les informations.
Si le locataire ne remplit pas cette annexe, il ne pourra tout simplement plus déduire son loyer. C'est donc un grand incitant pour s'y plier. Mais quelles seront les conséquences pour le bailleur ?
Ben à mon avis, les conséquences pour les bailleurs vont être assez importantes. Je pense qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles les locataires déduisent tout ou partie de leur loyer sans en informer le bailleur. Donc c'est clair que le fisc pourrait tomber sur des bailleurs qui n'ont pas repris correctement leur loyer dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques, mais c'est souvent simplement par ignorance. Parce qu'en réalité, si le contrat de bail ne prévoit pas ab initio qu'une partie du loyer sera professionnel et une partie du loyer sera résidentiel, l'administration va taxer le bailleur à 100% comme un loyer professionnel. Je pense que de nombreux bailleurs vont vouloir adapter les loyers en conséquence, donc ça pourrait avoir un effet à la hausse sur les loyers d'habitation.
La mesure devrait rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros à l'État. Une loi dans ce sens devrait être prochainement déposée au Parlement. Obliger les banques à relever leurs taux sur l'épargne, c'est les inciter à prendre plus de risques et donc nuire aux consommateurs à long terme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michael Ansehe, le CEO de BNP Paribas Fortis. Dans l'écho, le patron de la plus grande banque du pays qualifie d'injuste la volonté de certains partis d'imposer une plus importante rémunération de l'épargne des Belges. Selon ses calculs, obliger immédiatement les banques à atteindre un taux d'1% reviendrait à faire disparaître plus de la moitié des bénéfices du secteur. Un secteur qui, rappelons-le, enregistre des résultats records malgré la conjoncture difficile. Le CEO s'attend néanmoins à ce que le taux d'intérêt moyen sur les comptes d'épargne atteigne progressivement 1% d'ici à la fin 2024. De plus, d'après Michael Ansehe, les banques n'auraient pas placé autant de dépôts excédentaires que cela auprès de la Banque nationale. Elles ne bénéficieraient donc pas autant que cela des taux d'intérêt plus élevés de la Banque centrale européenne. Retrouvez l'interview complète du CEO de BNP Paribas Fortis sur notre site internet l'écho.be et dans les pages du journal de ce mardi. Chez lui, il est devenu insubmersible. Recep Tayyip Erdogan a donc remporté une nouvelle fois, ça a été confirmé ce week-end, l'élection présidentielle en Turquie. Avec un peu plus de 52% des voix, le conservateur reste maître du pays. Quentin Joris, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service politique de l'écho. Dans votre édito du jour, après les louanges de nombreux responsables internationaux, vous dites que l'Europe doit se montrer pragmatique dans ses relations avec la Turquie, mais aussi réévaluer certains liens dangereux qu'elle a tissés avec le président réélu.
Oui, les relations entre l'Europe et la Turquie ont toujours été assez compliquées. L'Europe est obligée de jouer un peu aux équilibristes à certains moments. Alors pourquoi ? Parce que la Turquie est importante, parce qu'elle est située à un endroit stratégique. Elle appartient aussi à l'OTAN. Et on a vu qu'elle était un canal de dialogue avec la Russie de Poutine, notamment lorsqu'il y a eu un accord sur le grain, l'accord céréalier, qui a permis de faire sortir une certaine quantité de grain d'Ukraine. Donc ça, c'est très important. On doit faire preuve de réelle politique. À côté de ça, on doit aussi se demander si on n'a pas tissé des liens dangereux avec la Turquie par le passé. À quoi je pense ? Je pense à l'accord sur la migration de 2016 qui a été conclu avec Ankara. Le but, c'était que la Turquie garde les réfugiés syriens sur son sol et en échange, les Européens payaient pour ça. Bien entendu, aujourd'hui, c'est toujours le cas. On continue toujours à payer. Il y a encore 3,7 millions de Syriens qui sont sur le sol turc. La Turquie s'occupe de ces gens avec des fonds européens notamment, mais c'est surtout un instrument de chantage de la Turquie par rapport aux Européens. Erdogan n'hésitera pas à dire « Attention, si vous n'écoutez pas ce que je veux, si vous ne vous montrez pas flexible par rapport à mes demandes, je pourrais ouvrir les vannes. » Et je pense que ça, c'est un problème et on doit absolument repenser à ça, essayer de remettre cet accord à plat.
Aux États-Unis, un compromis entre l'administration Biden et le camp républicain sur le plafond de la dette a été trouvé ce week-end. Pour éviter un défaut de paiement, les démocrates ont accepté de limiter certaines dépenses, mais pas autant que ce que souhaitaient leurs adversaires. Et donc, l'accord fruit de concession pourrait être à la fois la cible des plus progressistes et des plus conservateurs au Congrès qui pourraient s'allier pour faire capoter le processus. D'ailleurs, les votes doivent avoir lieu d'ici la date butoir du 5 juin. Une première réunion se tiendra à la Chambre des représentants ce mardi après-midi aux États-Unis. Le vote pourrait intervenir demain avant que le Sénat ne s'en saisisse avant le week-end prochain. Sur les marchés, cet accord devrait soulager les investisseurs à la reprise des activités ce mardi. Le gouvernement fédéral veut aider les entreprises en difficulté à mieux se restructurer en misant davantage sur la prévention et le suivi. C'est l'un des principaux objectifs de la réforme de la fameuse PRJ, la procédure de réorganisation judiciaire. Il s'agit en fait d'une transposition tardive par la Belgique d'une directive européenne de 2019. Le but est d'agir plus tôt pour aider les entreprises dans une mauvaise passe pour qu'elles puissent rebondir plus facilement. La nouvelle loi prévoit aussi de veiller à une certaine discrétion pour éviter les fuites et la mauvaise publicité. Il sera possible d'élaborer des prépacs ou se négocier directement avec les créanciers un plan de remboursement de dette. Une variante est le prépac transfert. Lorsque la faillite est inéluctable, il peut être choisi en amont le transfert de la société par un repreneur, ce qui limite la casse en termes d'image. Les plans de classe constituent le deuxième volet de la réforme. Leur approbation nécessite de s'assurer une majorité parmi les différentes classes de créanciers. On évite ainsi qu'une seule catégorie vienne barrer la route au plan de réorganisation judiciaire. Par ailleurs, la nouvelle PRJ prévoit de favoriser le recours à la liquidation-dissolution judiciaire. Le nouveau texte prévoit enfin d'accorder automatiquement l'effacement de dette dès l'ouverture de la faillite. Connaissez-vous le terme gridflation ? C'est la contraction de l'anglais grid, qui signifie avidité, et d'inflation, inflation, ça vous savez ce que c'est. En fait, on parle ici d'entreprises qui revoient leurs prix à la hausse uniquement pour tirer profit de l'inflation et augmenter ainsi leurs marges bénéficiaires. Existe-t-il un phénomène de ce type en Belgique ? L'économiste du syndicat CSC Thomas Greus s'est posé la question et a donc décidé de mener une étude.
On va pouvoir expliquer finalement d'où vient la hausse des prix dans l'économie. Est-ce qu'elle vient finalement de la masse salariale, du fait qu'on a eu des indexations ou autres ? Est-ce qu'elle vient de l'excédent brut d'exploitation ? Ou est-ce qu'elle vient finalement l'État qui aurait décidé d'augmenter les impôts nets à la production ? Et donc, sur cette base-là, on peut calculer que finalement, c'est l'excédent brut d'exploitation qui a le plus contribué à la hausse des prix dans l'économie par rapport à la masse salariale, ce qui permet aussi de renvoyer un des arguments qui est souvent mis sur le devant de la scène dans le débat économique, c'est le rôle de l'indexation automatique des salaires sur l'inflation. Et aujourd'hui, on peut dire que, alors sur base des chiffres 2022, on n'a pas encore le premier trimestre 2023, mais sur base des chiffres 2022, où on a déjà eu quand même pas mal d'indexations, c'est surtout l'excédent brut d'exploitation qui contribue le plus à la hausse des prix dans l'économie.
Donc peut-on dire que la plupart des entreprises tirent profit de l'inflation en Belgique ?
Alors, je nuancerai un peu le propos où, en fait, on a une étude de la Banque nationale qui avait été faite sur l'année passée où on voyait finalement la répartition des profits entre les plus grandes entreprises et les plus petites. Et en fait, on voyait que c'était les top 1% des plus grosses entreprises en termes de masse salariale qui concentraient le plus de profits. Donc, je dirais pas que toutes les entreprises l'ont fait. Sans doute qu'il y a des répartitions sectorielles et des répartitions entre entreprises là-dedans. Et alors, je nuancerai encore une chose, c'est que finalement, c'est la marge macroéconomique, c'est-à-dire c'est la marge où on n'a pas encore tenu compte des amortissements, on n'a pas encore rémunéré le capital. Il reste encore certaines charges finalement qui doivent être déduites pour obtenir vraiment le bénéfice net tel que on l'entend pour une entreprise.
Christian Msi vient d'être désigné nouveau président de Mitra. Après l'arrivée il y a quelques semaines du nouveau CEO, l'américano-canadien David Solomon, c'est donc la tête du conseil d'administration de l'entreprise biopharmaceutique liégeoise qui affiche un nouveau visage. Christian Homsi est médecin de formation et il cumule à la fois de très solides expertises dans le domaine de la santé, mais aussi le domaine du management. Avec ses plus de 30 années d'expérience dans le secteur des biosciences, il devrait aider Mitra à changer de cap. Et il y a du chemin pour la société qui ambitionne de devenir un leader mondial dans le domaine de la santé des femmes. Qu'a ressenti Christian Homsi à l'annonce de ses nouvelles fonctions et quelles sont ses priorités? Il nous répond.
Une grande fierté et un énorme sens des responsabilités. Et puis en même temps, en disant « Ouïouïouï, qu'est-ce que ça va être comme boulot ?» Mais tout ça ensemble fait l'intérêt de la fonction et je suis au service de David qui a toute l'expérience et le background nécessaire pour redresser Mitra. Mitra a beaucoup de chantiers en cours. Mitra est une des rares biotechs qui a un produit qui a été jusqu'à la mise sur le marché. Donc elle a des atouts qui sont extrêmement importants. Maintenant, il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé, peut-être, qu'il faut peut-être adresser et corriger. Et c'est pour ça qu'on est là. Et mon job, ça va être d'aider David à faire les bons choix et de le supporter. Mais le potentiel, je l'espère. Et là, c'est pour ça que je rejoins cette belle histoire.
Et on lui apporte tout notre soutien. Merci d'avoir écouté Le Brief. L'épisode d'aujourd'hui a été préparé par Ondine Ouérès. Je vous souhaite une très belle journée à tous. La semaine devrait être extraordinaire côté météo. Allez, à demain.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution. Plus d'évolution de votre capital. Plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière. Pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.